Levée de rideau est au Off d'Avignon du 4 au 25 juillet 2026. Venez nombreux, nous écoutons acteurs, actrices, metteurs en scène. Vive le théâtre! Alors aujourd'hui, pour le Off d'Avignon, nous allons parler de rencontre avec Snowden à la Factory Saltomazy à 14h40, sauf le jeudi. 93 au Théâtre de l'Adresse, sauf le mercredi à 17h55. Ensuite, nous allons parler du Reflet de l'âme aux Trois Raisins à 13h. Et pour finir, le Circuit ordinaire au Girasol à 13h35. Bon festival à tous. Bonjour Sylvain Bastonero. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour Sylviane.
En pleine préparation du off, ça approche, ça approche.
Tout à fait, oui. On n'est pas loin là.
Ouais, beaucoup de stress ou vous êtes un grand habitué?
Les deux.
Alors les deux
à la fois.
Et on vous présente pour trois éléments. En fait, vous êtes auteur, vous êtes metteur en scène et vous êtes comédien. Et aujourd'hui, on va parler des deux pièces que vous présentez en juillet. Alors, vous m'avez dit de choisir. Eh bien, on commence par Rencontre avec Snowden, qui se joue donc à la Factory Saltomazy. Tous les jours, sauf le jeudi, à 14h40. Et on peut déjà, je suppose, prendre les places. Alors, c'est qui Snowden?
Alors, Edward Snowden, c'est un lanceur d'alerte qui a révélé en 2013 le système de surveillance de masse mis en place par les agences gouvernementales américaines type CIA, NSA. Lui faisait partie, il faisait partie de ces organisations. Et en gros, ce système d'organisation, c'est une vraie histoire, hein, c'est évidemment une histoire vraie. En gros, tous les ordinateurs du monde entier étaient espionnés par la NSA, la CIA, via Internet, etc. Donc, tout ça est évidemment secret. Il y avait eu pas mal d'écoutes, même en Europe. Hein, je crois que de mémoire, il y avait Merkel, Hollande, qui était également espionné. voilà, c'était un truc qui était mondial. Et lui, il a révélé l'existence d'un système de surveillance de masse que peut-être on pressentait, mais qui n'était pas encore prouvé.
Il lui est arrivé quoi, Snowden, d'avoir révélé cela? Il faut pas le dire.
on peut le dire. De toute façon, c'est public. Hein. Donc la pièce retrace tout son parcours. Et évidemment, lui, quand il a fait ses révélations, il les a fait à Hong Kong. Mm-hmm. Et par la suite, en gros, il a demandé asile au monde entier. Il avait une possibilité en Amérique du Sud, si je me souviens bien, c'est l'Équateur qui lui avait accordé. L'asile et pour s'y rendre, en gros, il devait survoler que des pays non alliés avec les États-Unis, dont Russie. Mmh. Et arrivé en escale en Russie, on lui a coupé son passeport et depuis, il est toujours en Russie. Ils ont coupé le passeport au mauvais moment, je pense que c'est au pire endroit où il pouvait aller.
Oui, je crois que Poutine doit pas l'aimer.
disons que en tout cas, maintenant, il est toujours bloqué là-bas et voilà, donc c'est un peu un concours de circonstances un peu malheureux, mais bon.
Alors pourquoi là, pour cette pièce, là, Rencontre avec Snowden, vous avez les trois casquettes, hein, c'est-à-dire que vous êtes auteur, metteur en scène et un petit rôle, c'est ça que vous m'avez dit?
Oui, tout à fait, exactement. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à Snowden?
Je trouve le parcours extrêmement inspirant. C'est quelqu'un qui, au nom de son idéal, a sacrifié tout. On peut dire que c'est quasiment une sorte de suicide. Hein, où on fait ses révélations d'une seconde à l'autre, il peut prendre une balle dans la tête. Lui, il a laissé sa femme derrière lui. Il a laissé toute sa famille, tout son pays, pour ce qu'il considérait comme une énorme injustice, puisque tout ça a été mis en place, évidemment, dans le dos des citoyens. Et donc, son parcours est hyper inspirant. Et donc, tout part, en gros, des attentats du 11 septembre 2001, au cours duquel lui décide de s'engager dans l'armée parce qu'il a des idéaux un petit peu, pro-armée, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bref. En tout cas, il croit vraiment que l'axe du mal, etc., tout ce qui était à l'époque, en gros, il faut intervenir en Moyen-Orient, etc. Bref. Et petit à petit, il va intégrer les services informatiques de l'armée. Et c'est là qu'il va découvrir ça. Et puis, il va passer d'un patriote zélé, entre guillemets, à une personne qui va révéler au monde entier que les États-Unis ont mis en place ce système de surveillance de masse, quoi. Donc c'est un parcours vraiment très très intéressant et un courage admirable, vraiment très très inspirant, je trouve.
Alors, quand vous l'avez décidé d'écrire, vous avez écrit vraiment pour le théâtre, hein, c'est-à-dire vous avez tout de
Ah oui.
suite écrit pour une pièce de théâtre. Et
Ah oui,
il y a
tout à fait.
combien de personnes sur scène?
Alors, il y a quatre comédiens sur scène. Il y a quatre comédiens sur scène, ouais. Et oui, ça a toujours été pour le théâtre, effectivement. Ouais.
Et alors, vous jouez quel petit rôle? Vous avez
Oh, moi,
dit.
je joue les multi-rôles, entre guillemets. Je joue pas le rôle d'Edward Snowden, qui est vraiment un rôle très campé. Bon, on peut pas être partout non plus, quoi. Mais moi, je joue des petits rôles, un petit peu, qui servent un petit peu à faire avancer l'histoire, un petit peu tous les protagonistes, plus ou moins fous que Snowden rencontre au cours de son parcours. Des espions, des personnes qui le menacent plus ou moins directement, etc.
Et
Donc, ouais, c'est vraiment
vous
ça.
avez un parti pris, vous restez objectif ou c'est très subjectif la pièce? Je vais la voir bientôt, mais pour
Ouais.
l'instant, je suis dans le mystère.
Alors, en réalité, bon, moi, je suis assez partisan de la personne. Après, il faut quand même aussi nuancer le
Rester
parcours
assez
du
neutre.
personnage. Il est quand même en Russie. Il a la nationalité russe depuis 2022. Voilà. Et puis, il a quand même fait partie de ce système de surveillance pendant 5-6 ans avant de le dénoncer, entre guillemets. Donc, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Mais oui, c'est pas une pièce à charge, clairement.
D'accord. Donc, merci à vous de vous être intéressé parce que c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais là, c'est vraiment intéressant. Puis ça pose des questions de liberté, de dénonciation. On a eu une
Tout à
époque
fait.
où il faut vraiment dénoncer les nombreux scandales. Alors, on change complètement d'époque. Mais
Ouais.
Victor Hugo a toujours été un auteur engagé qui a pris position. Et donc, 93, c'est après la Terreur, c'est qu'est-ce que vous comment vous avez adapté en fait le roman de Victor Hugo? J'ai vu que
Alors,
sur
80.
l'affiche, il y a une guillotine, c'est
Ouais,
clair.
tout à fait. Tout à fait. Donc, 93, c'est le dernier roman de Victor Hugo qui se déroule pendant la Révolution, pendant l'année 1793. Et donc, ça se déroule pendant les guerres de ce qu'on a appelé les guerres de Vendée. En gros, il y a à l'époque une contre-révolution royaliste qui a lieu en Vendée, qui est réprimée dans le sang, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'armée républicaine. Et il faut savoir que le père de Victor Hugo a participé à cette guerre. Et donc, lui, il a toujours eu un lien un petit peu spécial avec la Révolution, avec les idéaux qui s'en suivaient, etc. Mais également avec cette guerre. Je crois qu'il admirait beaucoup Charette, qui était un chouan, qui était contre-révolutionnaire. Enfin bon, bref. En tout cas, il a écrit donc ce roman, donc qui est son dernier, pour raconter en fait l'histoire de trois destins liés qui incarnent chacun une branche de la révolution ou de la contre-révolution, mais qui sont liés personnellement. Ce sont des personnes qu'on dirait aujourd'hui radicalisées, c'est un peu le terme qu'on emploierait, je pense. Et donc l'idée, c'est de raconter comment ces personnes-là vont dépasser leur radicalité pour revenir vers leur humanité. Donc c'est un texte qui est profondément anti-manichéen. Qui combat la vision très simpliste du bien et d'un côté et du mal de l'autre, ce qui est un petit peu, je trouve, un des maux de l'époque. Et c'est aussi pour ça que nous, on a voulu l'adapter. Donc déjà, on a adapté un roman en pièce de théâtre, et par ailleurs, on l'a également mis en science-fiction en 2093. On avait envie de le
Ah,
projeter dans un
d'accord.
avenir. Ouais, tout à fait. Dans un avenir assez proche, tout en restant fidèle au texte d'origine qu'on respecte infiniment, et j'encourage tout le monde, évidemment, à lire ce roman magnifique. Mais nous, on avait envie d'en faire une petite dystopie parce qu'on trouvait que justement, ça résonnait beaucoup avec le monde actuel, donc à modulo évidemment quelques modifications par rapport au roman de base. Et on trouve qu'il a en tout cas une pleine actualité vis-à-vis notamment de tout ce qui peut se passer dans le monde.
Bah, le mot radicalisation, hein, il est dans tous les camps, hein, donc
Exactement. Puis cette façon permanente d'animaliser, on va dire les adversaires politiques, par exemple. Donc lui, c'était vraiment le cœur de son sujet. C'était en gros de montrer qu'il n'y avait pas de bien ou de mal incarné, que tout ça n'était qu'une affaire d'hommes et de femmes. Et donc voilà, ce que je trouve très très intéressant, c'est c'est cette confrontation des idéaux radicaux avec, on va dire, notre humanité profonde. Et comment ces personnages vont se retrouver confrontés à cette radicalité et la dépasser pour revenir vers l'humanité avec un grand H.
Alors, vous faites un peu un grand écart hein, entre l'espionnage de 2000, des années 2000 et puis
Ouais.
93, mais c'est 2093. Je vais vous
Tout à
poser
fait.
la même question que pour Snowden. Pourquoi avoir choisi 93? Enfin, je pense que vous avez répondu parce que c'est.
Y a quand même un lien parce qu'en fait, nous, ce qu'on projette en 2093, et ce qui était d'ailleurs le cas en 1793, alors c'était la Première République, mais ce n'était pas un modèle de démocratie très, très avancé, puisqu'il y avait quand même des gens qui se faisaient guillotiner, etc. Mais en gros, non, nous, on trouve que c'est assez intéressant de remettre au goût du jour ce texte, justement, parce que voilà, il a une actualité assez assez débordante, et en plus nous on projette ça
Dans un futur.
dans un univers très orwellien, un peu à la
Ouais.
1984, où en gros il y a un pouvoir hyper puissant. Nous on a mis une IA à l'intérieur de la pièce qui contrôle un peu la société, etc.
Ouais.
Et donc il y a quand même un rapport avec Snowden, puisque Snowden lui en gros il dénonçait la mainmise des puissances sur l'informatique, on va dire. Et on va dire que 2093, on peut dire qu'on tire le trait avec un système qui serait vraiment très contrôlant, très contrôlé par très peu de personnes, antidémocratique au possible, voilà.
Alors,
Et donc, il y a quand même un petit lien.
ce qui est fascinant, c'est justement le côté anticipateur de Victor Hugo. Et on voit aussi des auteurs anciens qui ont, bon, sans parler bien sûr de l'IA ou de l'espionnage,
Bien
avaient
sûr.
aussi dénoncé ces problèmes de radicalité. Donc, vous êtes auteur, vous êtes en train de préparer autre chose pour l'an prochain ou
Alors,
non?
j'ai quelques idées. Non, j'ai quelques idées, mais alors pour l'instant, je vous avoue que je suis vraiment
Vous
focus sur mon
concentrez sur.
Avignon. Ouais, tout à fait, ouais.
Eh bien, écoutez, bon
Mais
fait.
oui, il y a pas mal de choses à faire, ouais.
Eh bien, écoutez, bon festival à vous, aux compagnies. Je n'ai pas cité le nom des compagnies, je suis désolée, mais
Non, il n'y a pas de problème.
on
C'est
va
la
sur
compagnie Les Fouillons, c'est la même,
les
Les
Fouillons.
Fouillons.
Et on va
Ouais.
sur le site ou on va au théâtre de l'Adresse ou à la Factory. On trouve tous les renseignements, donc pour rencontre avec Snowden et 93. Merci à vous, Sylvain. À bientôt.
Merci beaucoup Sylviane, au revoir.
Alors pour cette fois-ci, nous allons parler au Off d'Avignon du Reflet de l'âme, qui est une pièce qui se joue au théâtre des Trois Raisins du 4 au 25 juillet à 13h. Et pour nous en parler, nous avons l'auteur et le metteur en scène Denis Gabriel et une des actrices, Julie Fabiou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Ah, quelle unanimité, c'est fait plaisir. Alors, Denis, le reflet de l'âme, on parle de quoi? Parce que je vois que le sous-titre, c'est un acte poétique de résistance intime. C'est beau, ça.
Oula, On parle de quoi dans la pièce? En fait, c'est une pièce que j'ai écrite. Tout simplement, qui est issu d'un poème que j'avais écrit il y a quelques années. Je vous raconte un peu l'histoire.
Bien
À
sûr.
l'époque, j'accompagnais un acteur célèbre qui s'appelle Richard Bohringer. Et j'ai toujours eu cette passion de l'écriture. Et Richard, un jour, en étant en tournée, est tombé sur ce texte. Et j'ai compris que ça lui plaisait.
Ça fait plaisir.
Oui, évidemment, ça m'a beaucoup touché. Et puis, j'ai eu l'idée, plusieurs années après, j'ai repris un petit peu, j'ai repris l'écriture, j'ai repris ce texte. Et j'ai, je sais pas, intuitivement, j'ai eu envie d'écrire une pièce de théâtre à partir de ce texte. Et ça a donné naissance au Reflet de l'âme. Alors, de quoi parle la pièce? La pièce parle. Je me suis inspiré de ce qu'on peut ressentir quand on est en tournée, qu'on accompagne des artistes, en l'occurrence là, un artiste connu, très connu. Mais j'ai transféré ça en créant le personnage principal, qui est une femme,
Oui,
qui s'appelle F1.
parce que je vois qu'il y a trois actrices. Donc en fait, vous
Oui,
passez de
alors,
Richard
il y a trois
Bohringer à trois
actrices.
femmes.
Je n'en dirai pas plus.
D'accord.
Et en fait, voilà, c'est une pièce que j'ai voulu écrire pour des femmes. peut-être parce que c'est aussi un peu ma sensibilité. Et c'est l'histoire d'une comédienne qui, à un moment donné, a comme une espèce de rupture dans son souvenir. Et du coup, je fais réapparaître sur scène deux personnages, dont un qui est interprété par Julie Fabiou.
Ici
Et ces
présente.
personnages sont là pour permettre au personnage principal de se reconnecter avec une certaine réalité qui lui a échappé.
Et ça se situe à...
En fait, ce qui m'inspire dans l'écriture, c'est de partir des choses que nous connaissons tous, vous, Julie, moi, des choses qui nous échappent,
Ouais.
des choses qui sont un peu invisibles.
Auquel on ne fait pas
Le théâtre
attention.
permet cette traduction. Pardon?
Auquel on ne fait pas attention, peut-être.
Non.
Non.
Je crois que c'est le moteur de mon écriture, c'est-à-dire
D'accord.
c'est vraiment des choses comme ça qui... Je suis assez observateur, j'aime
Oui.
bien. Et puis j'ai eu la chance aussi, j'ai la chance de faire un métier qui me permet d'avoir accompagné beaucoup d'artistes au cours des
Voilà.
pendant à peu près un peu plus de 20 ans. Et
Donc
j'ai
en
pu
fait,
observer ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas,
ouais. Et vous
ce qu'on
regroupez en
est, ce qu'on n'est
fait,
pas.
vous
Pardon?
regroupez en fait, on part du personnage de Richard Bohringer, mais en fait vous avez fait une sorte de mix de tout ce que vous avez observé sur plusieurs acteurs, plusieurs artistes, je pense.
Oui, hommes et femmes confondus. Et en fait, alors après, vous parliez de poésie, mais oui, moi j'aime bien quand il y a de la poésie, quand il y a de la tendresse. Il y a aussi des moments violents dans la pièce, mais ce n'est pas de la violence gratuite, c'est de la violence qui, comment dire, qui parle à soi-même, une forme de révolte à travers les mots, à travers les situations. Et je crois que la pièce reflète, sans faire de jeu de mots vaseux, reflète assez bien ça. Donc on voit ce personnage qui d'un coup est revisité par d'autres personnages et qui sont là pour lui permettre de traverser quelque chose, traverser un miroir, ce miroir qui est elle-même d'ailleurs, pour pouvoir atteindre. Alors c'est un bien grand mot, peut-être la rédemption, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas pour se retrouver elle-même.
Et
Voilà. Alors je ne
pourquoi?
dévoile pas
Ben
tout
non.
le mystère de la pièce parce que c'est au spectateur de se projeter à l'intérieur de ce mécanisme.
Et
Et
pourquoi
d'ailleurs, ce n'est pas un
l'affiche?
hasard si c'est une comédienne célèbre et si la pièce se déroule dans un lieu qui est le théâtre, dans sa loge. Voilà.
D'accord. Et pourquoi cette affiche, ce qui est assez flou, qui est assez vague, on peut interpréter, c'est un costume de scène. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de main, c'est...
Non, parce qu'en fait, ça illustre. Alors là, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me la pose.
Ah ben...
Oui, non, vraiment, bravo.
Merci.
En fait, c'est une veste de torero, de toréador, et qui a une grande importance. C'est vraiment un élément central de la pièce,
D'accord.
dans la dramaturgie de la pièce.
Ben, j'avais regardé un peu les photos et j'avais vu que sur le site et j'avais vu que c'était important cet élément de costume. Et Julie qui écoutait Denis qui parle beaucoup, mais c'est un auteur donc c'est normal.
Oui.
Comment vous vivez sa mise en scène et comment vous vous attribuez le rôle que vous jouez?
Alors, comment je m'attribue sa mise en scène? Alors, je suis le personnage de F3, je suis donc le docteur. Ce qui m'a intéressé, c'est deux choses. Déjà, c'est que c'est une pièce de femmes, il n'y a que des femmes sur le plateau. Et on se retrouve en plus dans un décor de théâtre. Ça se passe dans les loges d'un théâtre. Donc, ce que j'ai aimé, c'est la relation qu'on a toutes les trois, parce que c'est vraiment une pièce psychologique, mais aussi métaphorique. Donc, j'ai aimé qu'il nous fasse travailler, comme il disait, notre part de sombre. Mais moi, par exemple, j'ai un personnage assez haut en couleur et j'arrive à faire sortir le personnage de F1, enfin, à parvenir à accepter son histoire. Donc, j'ai un personnage positif, je trouve, qui n'est pas du tout...
C'est valorisant.
Et oui, qui est très valorisant. Donc, non, il nous a fait travailler profondément la psychologie des personnages. Il nous a obligé à aller jusqu'au bout Si on devait se révolter, on va jusqu'au bout. Ils ne nous mettaient pas de limites. Et ça, j'ai aimé, ouais.
Alors, merci à tous les deux. Et j'ai une dernière question pour Denis. Pourquoi
Je vous en
F2,
prie.
F1, F2, F3, c'est très anonyme, ça, ou pour que ce soit universel?
Oui, d'une part, je voyais pas dans cette pièce
De
leur
nom.
donner un prénom, Isabelle, Chantal. Pour moi, c'était en fait, c'est la même femme.
Oui,
Bon, je
c'est
vais
les
dévoiler
trois
un petit
aspects
peu,
en
mais
fait.
un tout petit peu. Voilà, c'est la même femme. Donc, il y avait la partie F1 qui est interprétée par Karine Burkel, F2 par Léa Fongo et donc F3 par Julie. Et chaque petit bout
Fais un tout.
représente bien l'intégralité du personnage. Et c'est très important. J'espère que le public le comprendra au fur et à mesure de l'histoire telle qu'elle va se dérouler.
Donc merci à tous les deux et bon festival et à bientôt donc au théâtre des Trois Raisins à 13h pour le reflet de l'âme. À bientôt.
À très bientôt, merci.
Nous parlons maintenant de Circuit ordinaire, qui est une pièce de Jean-Claude Carrière, mais adaptée au théâtre du Girasol pendant le Festival Avignon donc 2026 à 13h35 du 3 au 25 juillet. Et j'ai la chance d'avoir avec moi au téléphone deux des comédiens. On va commencer par la comédienne Prisca Lona qui joue la serveuse et Stéphane Biry qui joue le commissaire. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Stéphane, c'est une surprise, vous deviez être seul Prisca, mais c'est un grand plaisir. Il nous manque donc Yann Colette qui joue le rapporteur. Et alors lequel de vous deux nous raconte, enfin c'est un peu compliqué, le thème de la pièce de Jean-Claude Carrière?
C'est une pièce sur la délation. En fait, on est dans un univers un peu impersonnel, on est dans peut-être un régime totalitaire, on ne sait pas. Peut-être est-ce dans l'avenir, peut-être est-ce dans le passé. Ça, c'est le spectateur qui découvrira lui-même. Et un commissaire, probablement politique, convoque un rapporteur professionnel, un délateur professionnel, incarné par Yann Colette. Et lui, il le mène à mal, il a de l'ascendant sur lui, et petit à petit, les choses vont basculer. Voilà.
Et alors,
Et
la...
pour basculer,
Pardon.
qui vont basculer dans l'absurde, dans la folie, et c'est une pièce assez labyrinthique, je dirais. Mais drôle, c'est drôle en
Assez
même temps,
drôle.
il y a des moments. Oui, il y a des moments, c'est tellement absurde, on est tellement, excusez-moi, je vais employer un terme, on est tellement face à la connerie de ces régimes-là que ça peut devenir drôle par moment. Il y a des, nous, on n'essaye pas d'être drôle, hein, je vous le dis
Oui,
tout de suite,
oui.
voilà.
Alors, la mise en scène est de Alexandre Tchobanov. Et en vous écoutant, je n'ai pas encore vu la pièce que je viendrai voir avec plaisir. On a l'impression que ça peut se situer tout de même à n'importe quelle époque, en fait.
Ah oui, c'est une pièce qui, malheureusement, comme vous le
Malheureusement,
dites,
oui, peut s'adapter à
couvre.
n'importe quel régime, n'importe quelle époque. Oui. Et
Voilà.
alors vous, Prisca, vous êtes une étrange serveuse. C'est-à-dire, vous êtes en observatrice, mais vous allez agir tout de même, non?
Je vais agir, nous n'allons pas dévoiler ce qui va se
Ah
passer.
bon, d'accord.
Mais effectivement, donc j'ai un personnage qui est muet, qui initialement n'est pas écrit par Jean-Claude Carrière, et l'idée de le placer dans un. Une espèce de, on va dire, dans une espèce de café, de bar, comme on veut, amène ce personnage qui est là, qui observe en fait cet interrogatoire et on va dire, ce duel, ce combat entre ce commissaire et ce reporter. Et on a en fait une triangulaire qui se met en place par un jeu de regard.
Ah
Voilà.
d'accord.
Elle fait. En fait, c'est Alexandre qui a eu l'idée, le metteur en scène qui a eu l'idée de rajouter ce personnage muet qui n'est pas dans la pièce originale. On est simplement dans un bureau de commissaire. C'est très basique au départ dans l'écriture. Et le fait de le mettre dans une espèce de cafétéria, est-ce qu'on pourrait être à la Stasi, ça pourrait être la Securitate, ça pourrait être un régime totalitaire, en plus, mais c'est un lieu un peu impersonnel. On est presque à la limite. Moi, j'aime bien ça, un peu comme dans du David Lynch. On ne sait pas où
Ouais.
on est exactement. Il décide de convoquer à cet endroit-là et tient la serveuse, mais qui est aussi quelqu'un du système. Elle fait
Ils
partie
sont
du
tous dans le
système.
système.
On est tous.
Ouais.
Parce qu'on n'échappe pas à ce système.
Alors, j'avais une question à poser à Stéphane qui joue le commissaire. Est-ce que c'est plus facile de jouer un commissaire qui représente l'autorité que la rapporteure qui est une vilaine personne?
Les deux ont leurs difficultés et je vous fais une réponse de Normand, vous
Tout
m'excusez.
à fait.
Mais les deux ont leurs difficultés. L'un joue l'autorité et en même temps, il est déstabilisé ensuite. Et inversement, Yann joue l'ambiguïté. Et Yann a un univers tellement intérieur, tellement particulier, tellement fantasque que ça fonctionne très très bien. Et je dois dire que ça a été une vraie rencontre. Et ça, c'est grâce à Alexandre. Parce que moi, je ne connaissais pas Yann et ne me connaissais pas non plus. Et c'est Alexandre qui nous a réunis. Ça pouvait ne pas fonctionner. Et puis, le courant passe
L'alchimie s'est
vraiment
faite.
entre nous. C'est très important parce que
Bah,
c'est
surtout pour
vraiment
ce genre de pièce.
surtout sur ce genre de spectacle.
Oui.
Voilà. Et là, c'est un vrai duo qu'on fait. Et moi, je prends un grand plaisir. J'ai d'ailleurs hâte qu'on s'y mette, qu'on joue. Voilà.
Oui, et par rapport au personnage du rapporteur et du commissaire, c'est un petit peu comme dans la vie, on n'est jamais tout noir ou tout blanc. On a chacun nos parts d'ombre et nos parts de blanc. Et c'est exactement ce qu'on retrouve chez le commissaire et chez le rapporteur.
Et
Et
pour
alors?
terminer, juste si j'ai encore une phrase pour terminer,
Oui?
vraiment. Dans l'époque où on est, où la délation passe par les réseaux sociaux, par tout ce genre de choses, c'est une pièce qui résonne très,
Énormément.
très étrangement. Ah oui, elle a quelque chose de. C'est un éloge de la dénonciation, quoi.
Ça résonne très fort.
Et,
Ben,
bon.
on sait qu'il y a toujours beaucoup de dénonciations, quelles que soient les époques. Hein. Quand on voit pendant la
Oui.
Seconde Guerre mondiale le nombre de lettres de dénonciation à Vichy, c'est assez épouvantable. Et Prisca, dernière
Maintenant, les gens.
question. Prisca,
Oui.
dernière question. C'est pas frustrant de n'avoir rien à dire?
Absolument pas.
Au moins, vous n'avez pas de
Non,
texte à
parce qu'en
apprendre.
fait, il y a quelque chose de. C'est un rôle qui me faisait un peu peur, dans le sens où justement, il n'y a pas de texte pour quelque part un peu se cacher derrière. Et donc, on est obligé d'aller chercher à l'intérieur des états, une vigilance de chaque instant, enfin, de toute façon, comme le commissaire et le rapporteur.
Bien sûr.
Mais moi, en tant que serveuse et faisant partie de ce système et jouant ma peau également, quelque part, on joue chacun sa peau, eh bien, je suis dans une attention constante
En plus, ce
par
qui est
rapport
drôle,
à eux
c'est
deux.
qu'elle prend des notes pendant tout le spectacle, le personnage, mais Prisca prend réellement des notes sur nous. Donc, on est surveillé.
Vraiment surveillée.
Ça, c'est l'idée de ces Yann Colette qui a eu cette idée-là. Il dit, ça serait marrant si tu prenais vraiment des notes sur la façon dont on a dit la réplique, le machin. Donc,
Vous
on
êtes
est surveillé
fliqués,
en
comme on dit.
permanence.
On est
On est
fliqués.
fliqué. Voilà, on est vraiment
Et je leur
masochiste.
fais un petit compte rendu à la fin de chaque
D'accord.
village. Voilà.
Pour encore meilleur de jour en jour, mais je suis certaine que
Voilà.
vous êtes excellent dès le début et j'ai hâte de vous voir. Merci à tous les deux, malgré les petites
Merci
sautes de
Liliane, bonne
son.
journée.
À
Au
très
revoir. Au
bientôt.
revoir.